Bonjour tout le monde. Si vous voulez vous tourner avec moi dans le livre La lettre aux Hébreux, au chapitre 10, on va prendre la suite de ce qu'on a vu les derniers dimanches avec Pierre. Et on va commencer en lisant ensemble le passage qu'on va regarder aujourd'hui. Donc on est au chapitre 10 et on va étudier aujourd'hui les versets 26 à 39, mais je vais commencer en lisant à partir du verset 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou de trois témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance, grâce auquel il a été déclaré saint, et aura insulté l'Esprit de la grâce. Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Il a ajouté « Le Seigneur jugera son peuple. » Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous des premiers jours, après avoir été éclairés, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions, tantôt vous vous montriez solidaires de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leurs âmes. Prions. Seigneur, merci pour ce texte, merci pour cette lettre aux Hébreux, pour tout ce que nous y apprenons. Seigneur, je te demande de nous parler ce matin, de nous révéler quelles choses de ce texte doivent nous parler, doivent soit nous encourager, soit nous exhorter, soit nous reprendre, nous corriger. Seigneur, nous avons besoin de ta parole vivante et efficace dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de nous encourager les uns les autres, de nous rappeler ces choses. Alors Seigneur, nous te demandons de nous aider à le faire, à comprendre ce texte, à ce que les choses annoncées ici ce matin soient tes paroles, tes pensées, Seigneur, et ce que tu veux nous dire à tous ici, Seigneur. Sois glorifié. En ton nom, nous prions. Amen. Alors, on est encore dans la lettre aux Hébreux. On a déjà parlé du fait qu'il s'agit d'une lettre qui est écrite à des croyants juifs qui étaient tentés de laisser tomber la foi chrétienne et de revenir au judaïsme. Dans le texte, on voit qu'ils avaient été sujets à des persécutions, qu'ils souffraient. Ou alors peut-être qu'ils avaient souffert et qu'ils réfléchissaient après à se dire « mais finalement, s'il n'y a peut-être pas grand-chose de différent, peut-être qu'on serait aussi bien si on était juif ». Et donc toute cette lettre est un encouragement pour les encourager à persévérer, à endurer, à rester fidèles à Jésus et à rester fidèles à la foi chrétienne. Et il y a cet encouragement, il y a cette trame où l'auteur compare la foi juive à la foi chrétienne, l'Ancien Testament, la loi, les rites, tous les sacrifices que devaient faire les juifs dans l'Ancien Testament. Et il y a un contraste qui est fait dans tout le livre, c'est toujours de la comparaison avec Jésus. Les sacrifices de l'Ancien Testament ne sont pas aussi bons, Jésus est mieux. Jésus est mieux que les prêtres, Jésus est mieux que Aaron, Jésus est mieux que Moïse. Il y a tout le temps des contrastes comme ça entre les gens, l'Ancien Testament et le Nouveau. Cette idée de contraste est quelque chose qui vous permet de regarder le livre et de voir les comparaisons et de comprendre et de saisir certaines parties du livre. Ça nous aide à le voir quand on se met ça en tête. Et ici, on pourrait dire que notre texte, ce qu'on va regarder ce matin, on pourrait dire qu'il est résumé au verset 39. Si vous regardez le verset 39, il y a ceux qui reviennent en arrière pour leur perte et il y a ceux qui ont la foi pour le salut de leurs âmes. Et on pourrait presque dire qu'il y a deux parties dans ce texte. Il y a une partie où il dit, voilà, ceux qui reviennent en arrière, ce qui va se passer, ce que ça implique, et ceux qui ont la foi pour le salut de leurs âmes. Et il y a un contraste avec ces deux choses. On a vu les versets 23, 24, 25 où il dit de s'encourager, où c'est très positif, où c'est on lit ça volontiers. Et puis on arrive dans des choses qui sont plus dures, qui sont un petit peu plus menaçantes, on va dire. Et ça fait partie de quelque chose qu'on retrouve dans Hébreu. Il y a plusieurs fois des moments où l'auteur s'arrête pour donner des avertissements. Un petit peu comme s'il les encourage de manière positive, allez-y, c'est bon, mais faites vraiment attention parce que si vous ne le faites pas, et on en a vu plusieurs, et la plupart des commentateurs s'accordent pour dire qu'il y a 5 passages qu'on peut considérer comme des avertissements dans le livre. On avait vu dans Hébreux 2 l'idée de gens qui sont à la dérive et qui font preuve de négligence en négligeant un si grand salut, ceux qui se laissent aller dans le courant du monde. Il y a un avertissement contre ceux qui par incrédulité endurcissent leur cœur et n'écoutent plus la parole de Dieu dans le chapitre 3, la fin du chapitre 3 et le début du chapitre 4. Dans le chapitre 5 et le début du chapitre 6, l'auteur parle aux chrétiens qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas avancé dans la foi pour devenir matures. Il leur dit attention, il y a un avertissement là aussi. Nous, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est peut-être ceux qui, ayant connu la parole et la volonté de Dieu, se retournent. Il y a l'idée qu'on va regarder de ce que le texte nous dit de péché volontaire. Alors on va regarder ça. Et il y en a un dans le chapitre 12, le dernier avertissement de ceux qui sont indifférents à la voix de Dieu. Et donc on regarde ce contraste dans cet avertissement. À partir du verset 26 jusqu'au verset 31, on voit un petit peu ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, comme nous le dit le verset 39. Et on pourrait dire que ceux-là, ce sont ceux qui ont besoin de se repentir, qui ont besoin de changer. Et ceux qui ont la foi pour le salut de leurs âmes, on pourrait dire que ce sont ceux à partir du verset 32, et c'est plutôt ceux qui ont besoin d'endurer. Et c'est quelque chose d'intéressant. Souvent dans la Bible, souvent les Écritures, souvent les prophètes, ils ont souvent un message ou un autre qui soit consiste à dire aux gens vous devez vous repentir, vous devez changer. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu il fait souffrir ou il fait de la peine à des gens qui ne sont pas là où ils doivent être. Ou alors souvent un prophète va encourager ceux qui sont dans la souffrance parce qu'ils endurent. Et on voit ces deux choses dans ce texte. Alors si on regarde le verset 26, « En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » À quoi fait référence le « en effet » ? Ce qu'on voit avant, dans le chapitre 10, on voit que Jésus nous a offert un accès direct à Dieu, qu'il a tout fait pour nous, qu'il a offert un sacrifice qui est valable une fois pour toutes, et il nous dit de nous approcher au verset 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et après, dans les versets 23, 24 et 25, il nous dit qu'on doit retenir fermement l'espérance, qu'on doit veiller les uns sur les autres pour s'inciter à l'amour et aux belles œuvres, l'idée de faire la volonté de Dieu, et de ne pas abandonner notre assemblée, mais de nous encourager mutuellement, parce que le jour vient. Et donc, pour moi, en effet, c'est l'idée qu'on doit faire ces choses qui sont dites avant, parce que sinon, il y a un risque. Si nous ne faisons pas ces choses, alors il y a l'idée de pouvoir nous éloigner de Dieu, de se retrouver dans une situation pas bonne, comme nous le dit le verset 26 et 27. Si nous péchons volontairement, alors ici dans le texte, quand on lit ça, si on dit vous avez péché volontairement, on peut se dire ça peut être l'idée qu'on est chrétien et que peut-être on a un moment, quelque chose vient et on dit non, Dieu, non merci, je te laisse et je vais faire ce que je veux, tant pis. Et après quelque chose comme ça, quand on a péché, on se repent et on revient à Dieu. Je pense pas que ce soit ce dont il s'agit ici. Ici, c'est plutôt l'idée qu'on rejette Dieu de manière permanente en disant j'ai été sauvé, mais finalement ça m'est plus d'aucun intérêt et je laisse tomber Jésus. Je quitte la foi. Et l'idée ici de la connaissance de la vérité, c'est une compréhension, je pense, au niveau intellectuel, mais vraiment au niveau de l'expérience, qu'on a vraiment été sauvé, qu'on a connu Jésus et qu'on décide de se détourner de lui. Et c'est quelque chose évidemment de très grave. C'est un petit peu comme si on nous disait qu'il y avait demain une maladie très grave qui ravage le monde. Et finalement, on trouve un remède très simple et on nous l'explique et je dis ok et je mets en application. Et puis un jour, je me dis finalement, non, j'ai plus envie et j'arrête. Si je tombe malade et que je meurs, il y a plus d'excuses. Et le texte nous le dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Les croyants juifs qui se disaient on va retourner à la foi chrétienne, ils venaient de leur expliquer plus tôt dans le chapitre 10 que le sacrifice de Jésus était meilleur que les sacrifices de l'Ancien Testament, qu'il était finalement le seul valable. Et donc il leur dit mais si vous essayez de retourner et vous mettre votre confiance dans ces sacrifices, vous avez plus ça. Vous allez vous retrouver dans une situation très grave. Et c'est une idée et quelque chose qu'il est difficile pour nous d'entendre et qui reste une réalité, c'est que nous avons une liberté vis-à-vis de Dieu. Dieu ne nous... Dieu, alors c'est pas une menace dans le sens où il va nous punir. Si Dieu nous laisse notre liberté. Si nous voulons quitter Dieu, quitter Jésus, laisser la foi chrétienne, nous sommes libres de le faire. Dieu ne nous contraint pas de rester. Une fois qu'on a été sauvé, il nous dit plus tu veux partir, non, maintenant c'est fini, t'as plus de libre arbitre. Il nous laisse notre libre arbitre. Et c'est pas pour que nous ayons peur. Un petit peu comme avec l'idée du péché impardonnable, c'est pas l'idée que si je fais une mauvaise gaffe, je vais me retrouver en enfer. C'est l'idée que si je veux quitter Jésus et lui dire non, je veux pas de toi et je veux vivre sans toi et j'ai pas besoin de toi, Jésus nous laisse libre de lui dire ça. Et c'est quelque chose parfois auquel on pense pas et c'est dur à entendre. Par rapport à cette idée de péché volontaire, si vous dites mais qu'est-ce pour les chrétiens qui peut-être auraient un moment où ils décident de pécher quand même, Moi, personnellement, je sais que j'ai des moments où je fais ce que je sais ne pas être bon, et Dieu nous dit que nous sommes responsables de nos péchés. Donc je pense que l'idée de péché volontaire, nos péchés sont volontaires, nous avons un choix à faire et nous péchons. Donc ici, l'idée d'un péché volontaire qui nous mettrait dans une situation très grave vis-à-vis de Dieu, c'est quelque chose de plus permanent et de plus... on dirait de plus délibéré et décidé. Alors, si nous péchons volontairement en tant que chrétiens de manière temporaire, Dieu peut nous laisser, souvent on peut vivre et avoir les conséquences de nos péchés qui continuent à exister dans nos vies. Certains actes, certaines choses, c'est des choses évidentes peut-être, si on tue quelqu'un, on a des conséquences dans notre vie et Dieu peut nous pardonner et on peut avoir le salut, mais on va quand même avoir les conséquences de notre péché ici. L'idée, c'est que quand même, que ce soit l'idée de péché volontaire permanent, l'idée de rejeter complètement Jésus, c'est très grave pour notre condition éternelle. Mais de pécher volontairement en tant que chrétien peut être très grave pour notre vie ici et amener bien des conséquences et bien des douleurs, mais sans que ce soit forcément quelque chose qui ait une conséquence éternelle. On a beaucoup d'exemples de ça dans la Bible. Mais ici, au verset 27, on voit les conséquences pour les gens qui rejettent vraiment de manière permanente Jésus, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance, grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de grâce? Le verset 27 et 28, c'est des citations de Ésaïe 26 et Deutéronome 17. Encore une fois, il parle à des Juifs qui connaissaient très bien l'Ancien Testament, donc il leur cite des choses qu'ils connaissent par cœur, qu'ils ont entendues toute leur vie. Il leur dit, voilà, vous savez ce qui se passe quand on est en opposition à Dieu, quand on n'est plus justifié vis-à-vis de Dieu, il n'y a plus que l'attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévore les adversaires de Dieu. C'est ce passage, en lisant ce texte et en parlant de ces choses, en parlant de l'enfer, hein, ou d'une condition éternelle où nous rejetons Dieu, nous rejetons le salut en Jésus. J'y réfléchissais pour préparer ce matin et je me disais que j'y comprends pas grand-chose. On aime bien réfléchir à l'amour de Dieu, on aime bien réfléchir aux bonnes choses, on aime bien plutôt les choses positives, et on voit dans la Bible pas mal de passages qui, si on prend le temps et si on veut vraiment avoir tout le message de l'enseignement biblique, sont des passages où on est obligé de réfléchir à des choses moins sympathiques, moins peut-être enthousiasmantes. Mais je me disais, j'ai du mal à comprendre l'horreur de l'enfer, la gravité vraiment de se retrouver en position où on n'est pas juste vis-à-vis de Dieu, de manière éternelle. J'essayais de me poser cette question un petit peu, de me dire, mais qu'est-ce que... Alors on dit que c'est grave, on dit ces choses, alors l'ardeur du feu, etc. Et moi je vis dans un monde tranquille où... je veux dire, même si je me retrouvais sans abri, je pense pas que ce soit... Enfin, c'est difficile de mettre des choses qui arrivent à nous faire comprendre ce que représente la colère et le jugement de Dieu, l'enfer. Depuis un an ou deux, je m'intéresse pas mal à la Première Guerre mondiale, comme ça. Lors de la Première Guerre mondiale, il y avait des périodes où il y avait des bombardements. Ça a été un petit peu l'invention et la première grande utilisation de l'artillerie lourde à grande échelle, de manière massive, où il y avait les chiffres qui donnent le tournis, où ils expliquent que pendant une semaine, ils ont balancé 10 millions de bombes sur une surface de 2 km par 500 mètres, et on demandait à des gars de courir à travers. En lisant et en écoutant un petit peu des choses par rapport à ça, pour moi, personnellement, c'est peut-être quelque chose qui me permet un petit peu d'imaginer l'horreur de l'enfer, l'horreur du jugement de Dieu, et de se dire que dans la Première Guerre mondiale, lors de ces choses-là, il y avait des hommes qui, rien qu'avec le bruit du bombardement, au bout de quelques heures, de quelques jours, pétaient littéralement les plombs, et c'était des conditions, c'était des choses médicalement, les docteurs savaient pas ce qui se passait, ils avaient aucun traumatisme externe, et les gars, ils étaient finis, quoi. Rien que le bruit ils essaient de le décrire, mais je crois qu'on pourra jamais le comprendre sans l'avoir vécu, heureusement. Et pour moi, c'est ce que j'essaie de me mettre en tête quand je réfléchis à cette chose du jugement de Dieu, de la colère de Dieu. Et c'est difficile d'en parler parce que on a l'Évangile qui nous présente un Dieu qui fait grâce, qui nous offre son amour, qui est bon, qui est quelque chose de très positif. Et souvent les gens nous disent par exemple qu'ils n'aiment pas l'Ancien Testament parce que Dieu il est méchant, il tue des gens, etc. C'est le jugement, la colère, le feu. Mais la réalité, on le voit ici dans Hébreux, c'est que le Nouveau Testament, l'Évangile, ne nie en aucun cas la réalité du caractère de Dieu qui est saint, qui est juste et qui ne peut pas accepter le péché. Et pour moi, en tout cas, j'ai parfois du mal à réconcilier ces deux choses, mais je pense que c'est quelque chose que nous devons faire en tant que chrétiens. Il y a une réalité qui est que Dieu nous accepte si nous venons à lui et que nous acceptons son pardon en croyant que Jésus est mort pour nos péchés et que ça couvre nos fautes. Mais l'autre réalité, c'est qu'il y a un enfer et il y a un jugement et que nous sommes libres de le rejeter. Et que malheureusement, nous n'irons pas tous au paradis, au contraire de ce que nous dit la chanson. Et c'est quelque chose qu'on doit garder en tête. Donc dans l'Ancien Testament, au verset 28, on nous explique, c'est des passages, il y a dans Nombre et dans Deutéronome, différentes dispositions dans la loi, où si quelqu'un péchait de manière très volontaire en disant, il y avait dans Deutéronome la question de louer un autre Dieu, d'adopter une religion autre que la juive par un juif, que les peuples d'Israël devait, s'il y avait deux ou trois témoins minimum, ben on devait prendre cette personne et s'en débarrasser et la mettre à mort. Et le verset 29 nous dit « Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de la grâce ?» Donc c'est un peu une question rhétorique, un peu... Dans l'Ancien Testament, si quelqu'un rejetait volontairement la loi de Dieu, vous aviez pour responsabilité de le mettre à mort. Donc si Jésus, qui est supérieur à tout ce qui venait avant, qui a payé un meilleur prix, qui donne un meilleur accès, qui est meilleur en tout point, si on le laisse de côté, si on le refuse, à votre avis, est-ce que ça va être grave ou pas? C'est un petit peu ça la question. Et le texte ici est est lourd dans la manière dont il décrit ce que ça implique quand nous rejetons le sacrifice de Jésus, quand nous rejetons Jésus. C'est pas juste quelque chose de petit. Il nous dit, c'est comme si nous avions foulé aux pieds le Fils de Dieu, que nous avons jugé sans valeur le sang de l'Alliance, le sang de Jésus, et que nous avons insulté l'Esprit de la grâce, l'Esprit Saint. C'est lourd, c'est pas juste « oh non, je me mets de côté, je préfère pas », c'est quelque chose de très, très lourd et très, très... Alors, je voulais attirer l'attention sur le point que c'est quelque chose de très personnel. On a souvent dit que la foi chrétienne, c'est une relation et pas une religion. Et ici, on a encore cette idée qui ressort. C'est pas juste, ah non, cette liste de choses, elle me plaît pas trop, cette liste de propositions, non, je vais faire alinéa B, 5, non, merci. Non, c'est quelque chose de très personnel et c'est quelque chose avec une relation. C'est un peu comme si vous aviez un ami ou un proche de la famille et qu'à un moment, vous le rejetez, vous le tabassez, vous lui marchez dessus, vous lui crachez dessus, vous le rejetez complètement de votre vie. C'est ça l'idée qui est transmise ici. C'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose vis-à-vis entre vous et Jésus. Vous avez accepté Jésus, vous avez une relation avec lui, et puis à un moment donné, vous dites, non, j'en veux plus de cette relation. Pour bien y réfléchir, c'est de se réfléchir à... une relation comme ça, une relation proche avec quelqu'un que vous aimez, et de vous dire, si je coupe complètement, si je réagis de manière violente contre cette personne et que je n'ai plus de relation avec elle, c'est ça dont il est question si nous rejetons Jésus. Verset 30. Nous connaissons en effet celui qui a dit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Il a ajouté, le Seigneur jugera son peuple. Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ici, il y a encore une citation du Deutéronome. Et il y a encore cette idée de jugement, de quelque chose qui va venir, d'un Dieu qui va donner ce qui est dû aux gens. Encore une fois, pour répéter, si nous rejetons Jésus, un jour, nous allons nous retrouver devant Dieu et devoir nous défendre tout seul en situation où nous sommes convaincus sans aucun doute de crimes qui ne sont pas pardonnables. Et c'est ce que la Bible nous explique. Et sans Jésus, il n'y aura pas de délibération du jury, il n'y aura pas d'hésitation quant à la condamnation. Et encore une fois, ce texte et la Bible nous répètent et ne s'arrêtent pas. Il y a quelque chose de gravissime qui se joue dans le monde autour de moi, dans l'état spirituel autour de moi, dans la réalité du monde. Et moi, personnellement, je sais que trop souvent, je ne vois pas ces choses, je ne pense pas à ces choses. Pierre parlait du fait que nous pourrions aller dans la rue partager notre foi plus, et combien de fois je n'y pense pas, combien de fois je suis dans une situation où je vais me dire, ah oui, l'élection, oui, c'est grave, me plaindre et pas parler de Jésus, c'est ça qui importe, c'est ça qui est gravissime, c'est ça qui a vraiment une conséquence, un poids au niveau de l'éternité. Notre vie et l'élection d'aujourd'hui, c'est rien comparé à l'importance et la gravité de ce qui se joue dans chacun de nos vies vis-à-vis de Dieu. Et au cœur du christianisme, au cœur de l'évangile, il y a de l'espoir, il y a une opportunité, mais il y a toujours, et on peut pas le dissocier, il y a une sorte de menace, un avertissement. Le pendant de si on accepte, alors c'est bon, mais il y a cette réalité que si on n'accepte pas, nous allons être jugés et punis. Dieu jugera son peuple. Il y a l'idée là que que Dieu aussi a une exigence vis-à-vis de ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont accepté. Il va les considérer de manière différente, peut-être que ceux du dehors, et il y a une responsabilité. Si nous connaissons Jésus et que nous le rejetons, il y a quelque chose peut-être de plus grave que si simplement nous n'avions pas entendu l'Évangile, nous n'avions pas connu. Je ne sais pas exactement ce que ça implique, mais en regardant les versets précédents où on nous dit qu'on doit s'encourager, on doit rester ensemble, on doit s'exhorter, on doit être ensemble à se tenir dans les bonnes œuvres, dans la bonne voie. Mais il y a aussi l'idée que Jésus attend quelque chose de nous, qu'il n'attend pas forcément des gens du dehors. Et notre réflexe en tant que chrétien, encore une fois, j'aime bien y réfléchir en ce contexte politique actuel, c'est moins pointer du dehors les gens qui ne sont pas croyants et ce qu'ils font, et plus entre nous, nous examiner et nous exhorter à nous comporter comme nous, en tant que chrétiens, nous devrions le faire. Tout simplement parce que la Bible nous dit que Dieu va juger son peuple. Alors, pas dans un sens éternel, mais dans le sens où il va quand même regarder ce que nous avons fait pour lui. Je pense que les chrétiens qui étaient sur le point de rejeter Jésus, ces chrétiens hébraïques qui se posaient la question, qui se disaient peut-être pas, c'était peut-être des chrétiens qui faisaient beaucoup de tort à l'Église, dans le sens où ils n'étaient pas vraiment engagés, où ils n'étaient pas, ils n'allaient plus à l'Église, on savait qu'ils étaient chrétiens, mais qu'ils n'étaient pas différents. Et ça aussi, c'est quelque chose où on devrait s'examiner entre nous et s'encourager à être vraiment le sel de la terre, à être différent. Est-ce que nos vies, est-ce que notre présence dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans nos communautés, est-ce que nous faisons du tort à Jésus ou est-ce que les gens voient qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose de bon? Et au verset 20, alors on passe au verset 32, dans la partie peut-être un peu plus positive du texte. Souvenez-vous des premiers jours, après avoir été éclairé, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposé aux injures et aux persécutions, tantôt vous vous montriez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez des richesses meilleures et qui durent toujours. Je disais tout à l'heure que j'ai l'impression de pas forcément comprendre grand-chose au jugement de Dieu, et ici, face à ce texte-là, face à l'idée de la persécution, je dois aussi avouer que ce sont des choses qui me semblent étrangères, parce que quand on voit les persécutions auxquelles ces gens à cette époque-là étaient exposés, quand on voit dans beaucoup de pays du monde ce à quoi sont exposés des chrétiens pour leur foi, je n'ai pas ce vécu-là. Je n'ai pas eu à souffrir pour ces choses-là de cette manière. Et je pense que c'est un luxe que nous vivons en grande partie ensemble depuis peut-être 50, 75 ans dans le monde occidental, une certaine paix, une stabilité, une sécurité que nous avons et qui va peut-être pas durer, mais la Bible nous promet que ça va aller de moins en moins bien, disons, au niveau moral, au niveau de ce que les gens veulent entendre, de ce que les gens veulent accepter de Dieu. Et il y a un vrai risque que ça nous amène des conséquences plus graves pour notre foi en Jésus. Mais peut-être, plutôt que de nous poser une question par rapport à un futur hypothétique, il y a peut-être plus simplement, pour moi, je me dis que ici, chez ces chrétiens, on voit qu'il y avait des moments où ils étaient persécutés eux et des moments où c'était d'autres, peut-être des amis à eux, des frères, des gens qu'ils connaissaient au loin, et qu'ils les soutenaient, qu'ils s'entraidaient, qu'ils s'encourageaient. Et je dois vous avouer que bien des fois, mon cœur est dur insensible à la souffrance et aux choses que je peux entendre parfois par rapport à des chrétiens dans le monde qui souffrent pour leur foi. Et c'est peut-être un des côtés pervers de notre monde moderne, avec les nouvelles, avec Internet, avec les réseaux sociaux. Je ne sais pas vous, mais moi, dans ma sphère de connaissances, dans ma sphère d'influence, j'ai l'impression de... Si j'y prêtais attention, j'ai l'impression que je pourrais avoir des nouvelles sur des situations de crise gravissimes, des gens persécutés plusieurs fois par jour, et d'une certaine manière, peut-être que c'est tout simplement trop. Et face à ça, on a souvent tendance, vis-à-vis dans le monde, à dire bon, bah c'est trop Dieu, donc je laisse ça à d'autres. Et pour moi, je me disais que ce serait bon sans doute d'essayer de choisir ou d'essayer de me dire je vais prendre, peut-être si je connais quelqu'un, si je peux m'engager vis-à-vis d'un ministère. Il y a les ministères qui de portes ouvertes, par exemple, qui aident les chrétiens persécutés, qui permettent aux gens de soutenir les gens. Peut-être plutôt que de m'inscrire à une lettre de nouvelles en ligne ou des choses comme ça, où on est bombardé tous les trois jours à signer des pétitions pour sauver tous les chrétiens persécutés de la terre, peut-être que ce serait plus productif pour moi, et peut-être que c'est quelque chose que moi je dois faire. J'ai eu l'impression que Dieu me parlait de m'engager vis-à-vis d'une chose ou une personne et d'essayer de me concentrer sur ça et de faire fi du bruit ambiant qui est souvent assourdissant. Et peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez considérer aussi. Je sais que les portes ouvertes, par exemple, leur site web, vous pouvez aller vous engager à soutenir quelqu'un, à encourager quelqu'un, à prier pour quelqu'un, ou un pays, ou un ministère, et que vous pouvez à ce moment-là avoir quelque chose où vous avez quelque chose que vous pouvez vivre, disons, émotionnellement et au niveau de la gestion de toute l'information. Et je pense que c'est important pour nous, si nous ne sommes pas persécutés, comme ces chrétiens dans Hébreux, de au moins encourager ou aider d'autres qui sont dans ces cas-là. Et c'est quelque chose aussi, cette idée de confort qui on aime bien le confort, on aime bien la tranquillité, mais c'est dangereux aussi. Il y a, si vous réfléchissez dans la vie pratique, dans la vie courante, il y a plein d'exemples qui nous montrent que le trop de confort et de facilité sont mauvais pour l'homme, et de la difficulté et de l'opposition, c'est ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait être fort. On voit les athlètes, par exemple, c'est pas en ne faisant rien et en restant chez eux en mangeant qu'ils arrivent à courir un marathon en moins de 2 heures. Par exemple, ils essaient de faire ça en ce moment, c'est leur objectif, mais c'est en se faisant violence, musculairement parlant, pour faire grandir nos muscles, il faut les faire travailler jusqu'à épuisement et même jusqu'à des micro-ruptures. Et après, le muscle s'auto-guérit et devient plus fort. Et donc, l'état du monde dans lequel nous vivons, dans le monde occidental, est peut-être finalement quelque chose de très rusé de la part de l'ennemi, Satan, qui sait que si nous vivons dans le monde matériel, confortable, tranquille, que petit à petit nos objectifs changent, nous assoupissons, et spirituellement aussi nous perdons notre force, notre vigueur. Et on voit des exemples nombreux dans la Bible. David, peut-être le plus célèbre, qui n'est pas au front quand il doit être au front avec ses troupes, et qui à ce moment-là chute et tombe dans le péché avec cette femme. Alors ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aller de manière ridicule se chercher de l'opposition qui serait grave, mais peut-être posez-vous la question, c'est ce que j'aimerais me poser plus, c'est où est-ce que je devrais être pour Dieu? Quel est le front on va dire militairement parlant, spirituellement, où Jésus veut que je sois. Où est ma position dans les tranchées pour Jésus? Et de manière aussi peut-être contradictoire, cet endroit-là, c'est un endroit plus sûr pour vous, parce que vous êtes là où Dieu veut que vous soyez, que si vous êtes en mode je prends des vacances, le front, je reviendrai plus tard. C'est là l'endroit le plus sûr, et c'est pas ce à quoi on pense. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison, et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. Donc encore une fois, avoir de la compassion pour ceux qui sont persécutés ou qui peuvent être en prison. Ici, ça nous rappelle l'enseignement de Jésus dans Matthieu 6, qui nous dit que notre trésor doit être au ciel, que là où est notre cœur, là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Et l'idée que si on met toute notre espérance dans ce monde et dans le monde matériel, on risque d'être très déçus, mais que si nous investissons nos vies en quelque sorte dans le royaume de Dieu, que nous allons vraiment en retirer quelque chose, parce que le monde ne peut pas nous l'enlever. Et ici, alors il continue après au verset 35, mais il les encourage à continuer, il les encourage à endurer. Il leur dit, vous aviez fait ça, vous avez commencé comme ça, peut-être que les choses ont changé, mais continuez. Et au verset 35, on le voit, n'abandonnez pas donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leurs âmes. Il leur dit, ne laissez pas tomber, continuez, vous avez enduré ces choses au début, vous pouvez endurer ces choses maintenant, vous pouvez continuer, vous l'avez fait, vous pouvez le faire encore. Il leur dit, ne revenez pas en arrière, restez ensemble, continuez à vous encourager les uns les autres, n'abandonnez pas votre assemblée, encouragez-vous. C'est un petit peu comme un entraîneur qui encourage un élève, qui s'encourage peut-être. J'ai couru il y a 2 ans de ça maintenant un marathon avec mon frère, et il y avait plein de gens au bord de la route qui nous disaient allez-y ouais vas-y Jean-Claude, et c'est un petit peu l'idée ici, et on va le voir plus loin dans Hébreux où au chapitre 12 il va dire nous donc aussi puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Il y a une idée dans le chapitre 11 par rapport à la foi. On va voir plein de gens dans l'Ancien Testament qui ont eu la foi et qui ont plu à Dieu. Et il surenchérit. Lui, il est là à encourager, à dire « Allez-y, c'est bon, tenez bon, tenez bon. » Et en plus, tous ces gens de l'Ancien Testament, c'est comme si on était dans un stade et eux, ils sont en tribune et ils disent « Allez, ouais !» Ça doit nous encourager. Et il y a aussi l'idée de récompense. Souvent, là aussi, c'est quelque chose que j'ai du mal forcément à comprendre. On a l'idée, ok, je vais avoir Jésus, la relation avec Jésus, mais la Bible nous parle, Paul nous parle de manière répétée de l'idée que nous pouvons gagner une récompense. Qu'il y a des gens qui vont arriver au ciel, mais de manière juste, sans rien, en mode j'ai fini la course, mais je suis loin derrière. Et puis il y a ceux qui auront fini premier ou cinquième, qui auront une récompense. Et c'est quelque chose qui est vrai et qui est pas. On peut se dire c'est mesquin, c'est mauvais. On veut une récompense, c'est égoïste. Mais Paul l'utilise à plusieurs reprises. L'auteur aux Hébreux nous dit, il y a une récompense. On doit se dire, je vais avoir ma récompense. Je vais faire plaisir à Dieu. Je vais voir Jésus et je vais avoir quelque chose. On n'est pas exactement sûr de ce que ça représente, mais la Bible nous en parle. Et pour ça, il nous faut de l'endurance et de la persévérance. Et il leur dit, oui, c'est dur, c'est long, et il vous faut de la persévérance. L'endurance, encore une fois, ça nous vient par les épreuves, par le fait de rester fidèle à Jésus dans les épreuves. Dans Jacques, il nous en parle que les épreuves nous font grandir, nous font gagner en persévérance. Et il ne peut pas y avoir de foi authentique sans la persévérance, sans cette endurance, sans cette loyauté envers Jésus. Ici, il y a ce verset qui est cité, qui est du livre d'Habacuc, que le juste vivra par la foi. Souvent, on parle de l'idée qu'on est sauvé par la foi, que c'est comme ça que nous sommes sauvés. Et là, il y a une idée en plus, et c'est une idée importante, c'est qu'il faut vivre par la foi. Être sauvé, c'est un truc qui arrive, et après on est sauvé, c'est bon, Vivre par la foi, ça veut dire de continuer, de vivre tous les jours, de se lever, d'aller au travail, de témoigner, d'endurer les choses que nous sommes amenés à endurer dans nos vies, de souffrir, de nous réjouir, de tout ce que vous connaissez, nous connaissons de la vie. Et souvent, c'est là que c'est difficile. Cette petite citation d'Habacuc est un texte clé dans toute la Bible, qui est reprise dans Romains, qui est reprise ici et qui est reprise ailleurs, il me semble dans Galates, qui nous explique la vie chrétienne et qui est vraiment quelque chose de fondamental. Et il y a cette idée qu'on doit vivre, qu'on doit continuer et qu'on doit avoir cette endurance, cette persévérance. Et alors, Jésus est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Donc, on a de l'aide en Jésus, mais il nous appelle à ne pas revenir en arrière, à continuer même quand c'est difficile, à continuer dans la difficulté. Et cette idée de loyauté aussi envers Jésus, c'est quelque chose qui revient bien des fois dans la Bible. On le voit dans plein de paraboles, l'idée de serviteur où le maître est parti. Il est parti quelque part, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a les serviteurs qui sont là, ou alors il y a les noces de mariage qui sont préparées, ou etc., etc. Il y a plusieurs paraboles. Puis à un moment ou à un autre, le maître revient. Et là, c'est le moment important. Il y a cette idée que le maître regarde la loyauté du serviteur, il regarde si pendant qu'il était parti, pendant le temps qu'il a eu à être loyal, à rester fidèle, s'il l'a été. Et c'est ce à quoi nous encourage l'auteur de la lettre aux Hébreux, de dire mais restez, continuez. Et il dit parce que c'est ça. Alors déjà, on a une récompense, on a le salut de notre âme. Et ça va pas durer longtemps. Pierre en a parlé de l'éternité la semaine dernière, l'idée que l'éternité, face à nos vies, finalement, nos vies vont sembler comme pas grand chose. Et c'est toujours difficile pour nous parce qu'on est dedans, on est là, notre conception, notre compréhension du temps est ce qu'elle est. Mais de se dire que finalement notre vie ici c'est quelque chose de court, et de se dire qu'on reste fidèle pendant ce temps-là et qu'après on a toute l'éternité pour profiter, c'est la bonne perspective, et nous devons nous encourager aussi à avoir cette perspective, cette bonne perspective de la vie, de dire que ici c'est quelque chose de court, que le temps que nous avons ici qui est court, bien peu de temps. Et après, on, suivant ce qu'on a investi pendant ce laps de temps court, on aura des conséquences éternelles positives ou moins positives. Et le verset 39, c'est un bel appel avec une foi où il dit « Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leurs âmes. » C'est, je trouve intéressant le changement de ton où il leur dit, il est là à les encourager, et puis il s'arrête et dit attention, il ne faut pas faire ça parce qu'il y a vraiment des conséquences. Puis il dit continuez, allez. Puis il dit nous on va y arriver quoi. Il y a quelque chose de vraiment plein d'espoir, plein de confiance en Jésus surtout, qui encore une fois est l'auteur et le perfecteur de notre foi et qui nous soutient dans les moments difficiles. Et nous avons besoin de réfléchir à cette bonne perspective, de nous dire que nous devons continuer, nous devons avoir cette persévérance. C'est vraiment quelque chose de beau. Et si nous faisons ces choses, nous aurons la foi qui nous donnera le salut de notre âme. Dans certaines traductions ou commentaires, ils disent que c'est l'idée de la pleine possession de leur âme, pas forcément l'idée du salut, mais l'idée de vraiment de posséder la vie pleinement, de posséder quelque chose complètement. Et on voit que donc il leur dit, nous sommes de ceux qui ont la foi pour le salut de leurs âmes. Et puis il bascule alors le chapitre 11. Or la foi, c'est l'assurance, la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On verra ça plus tard. Mais il y a quelque chose de vraiment beau, je trouve, dans ce verset 39 où il dit, mais quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui tombent en arrière. C'est comme s'il est confiant qu'avec cette exhortation, il les reprend et dit, continuez, tenez bon et nous, on va y arriver. Nous aussi, nous devons continuer. Alors, continuons ensemble, ne laissons pas tomber, ayons foi, soyons fidèles à Jésus, ayons confiance en lui, et comme il le dit, encourageons-nous ensemble à rester fidèles, encourageons-nous à persévérer. C'est quelque chose de beau, cette idée que nous sommes comme un peu comme une famille, ce que la Bible nous explique, et cette idée que nous, c'est comme ça que nous sommes. Nous, c'est ce que nous faisons. Nous, ici, nous nous encourageons mutuellement, nous restons ensemble, nous persévérons. Nous faisons confiance à Jésus, nous. C'est ce que nous, en tant que chrétiens, nous faisons. Et c'est beau. Et nous devons le faire. Alors faisons-le. Prions. Seigneur, merci pour ce passage. Merci pour ta parole. Merci de ce que tu nous as réconciliés avec toi, de ce que tu as ouvert ce passage vers le Saint des Saints, que nous pouvons avoir cette relation avec toi. Merci de cette famille que nous sommes, que nous, ce que nous faisons, c'est de te suivre, de t'obéir et de te faire plaisir, Seigneur. Pardonne-nous quand ce n'est pas le cas. Seigneur, pardonne-nous quand nous ne nous reprenons pas les uns les autres, quand nous ne sommes pas fidèles à ta parole dans ces passages, Seigneur. Aide-nous à nous exhorter les uns les autres, à nous encourager, à nous fortifier, à encourager ceux ou celles que nous connaissons qui sont en prison, Seigneur. Que ces paroles ce matin, que ce texte, Seigneur, soit quelque chose que nous vivons. Et Seigneur, je te demande pardon parce que c'est il suffit de 20 versets pour exposer tellement de choses dans ma vie qui ne te plaisent pas. Tellement d'endroits dans ma vie où je ne fais pas ce que tu veux, Seigneur. Aide-moi à changer, Seigneur, à me repentir et à changer et à faire ce que tu veux, Seigneur. Que mes frères et sœurs, Seigneur, puissent m'encourager à le faire et que moi je puisse encourager mes frères et sœurs aussi à le faire. Seigneur, et que nous, nous puissions aussi réfléchir à la gravité de la réalité de ceux qui te rejettent et avoir de l'amour et du zèle, Seigneur, pour nos contemporains qui courent un grave danger, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps ensemble. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour le fait que tu nous parles, Seigneur, par ta parole. Sois glorifié. En ton nom, nous prions. Amen.